Luc chapitre 17, verset 11, il est dit « Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » On connaît tous ce passage des 10 lépreux, enfin je pense, et cette rencontre avec Jésus et ses 10 lépreux, qui un peu pour moi rappelle l'appel au salut. Cette rencontre à un moment que je vais avoir avec le Seigneur d'une manière ou d'une autre, mais où le Seigneur va me proposer le salut. Comme ces lépreux, un jour que le Seigneur nous a rencontrés. Alors, ce serait intéressant un jour d'entendre vos témoignages, ils seront complètement différents, et le Seigneur a sa méthode pour nous approcher. Dans ce cas-là, il s'approchait d'une certaine manière avec ces lépreux-là. Mais c'est tellement beau de voir la manière dont Dieu s'approche des hommes, des femmes, pour leur présenter à un moment le salut. Et qu'est-ce que vous faites la première fois? Vous dites « Oui !» Généralement, ça nous passe au-dessus. Je suis certain que le Seigneur est venu plusieurs fois frapper à la porte de notre cœur. Et à un moment, on a craqué et on a accepté le Seigneur. Il y en a qui n'ont pas forcément craqué. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est devenu des chrétiens par intérêt? Parce que c'est un peu l'idée du texte. Est-ce que je suis le Seigneur parce qu'il me donne la santé? Parce qu'il me donne l'argent éventuellement? Peut-être la sécurité? C'est un petit peu ce que cherchaient ces 10 lépreux, on va le voir. Ou est-ce qu'on est des chrétiens qui ont compris qu'ils ont été graciés? On méritait la mort, mais on a été graciés. Et qui aujourd'hui marchent avec un cœur plein de gratitude. Et là, il y a deux façons de marcher dans la vie chrétienne, et c'est ce qu'on va voir un petit peu ce matin. Et j'aimerais qu'on reparte avec un cœur qui soit reconnaissant. Et la reconnaissance, ça se voit sur le visage. Enfin, souriez pas bêtement, mais quand même. On est heureux quand on est reconnaissant. Donc, premier point, cette rencontre entre Jésus et les 10 lépreux, il est dit que Jésus se rendit à Jérusalem, il partait vers Jérusalem, mais il n'a pas pris, en fait, et ça il faut le savoir, il y a deux autres chemins normalement habituels, celui de Samarie et de Pérée, et lui il a pris un chemin un peu particulier pour y aller. C'est Jésus, il fait ce qu'il veut, mais ce chemin bien à lui, peut-être que c'était dans l'idée, à un moment, de rencontrer ces 10 lépreux. Le texte ne dit pas, mais on suppose. Jésus savait beaucoup de choses. Il va rentrer dans un village, on ne connaît pas le nom du village, mais certainement que par sa souveraineté, il savait qu'il allait rencontrer ces 10 lépreux et c'était le moment de les rencontrer et de faire certaines choses avec eux. Jésus nous a rencontrés aussi au bon moment, au bon endroit. Sinon, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs moments des fois, mais je crois qu'à un moment, le Seigneur sait y faire. Il sait nous convaincre de nos péchés, le besoin d'être purifié, de se convertir, de naître de nouveau. Il sait y faire. Et le problème, c'est que beaucoup de gens, même placés dans cette idée-là, vont des fois refuser, tout simplement. Et on le voit avec 9 lépreux, en tout cas. Mais on ne pourra jamais dire à Dieu, « Ah, mais moi, je n'ai jamais entendu parler de toi, je ne savais pas. » Je crois que le Seigneur rencontre chacun à un moment et sait tout faire pour que nous puissions céder à sa grâce. La question, c'est est-ce que l'on le veut, évidemment. Dieu fait tout aussi pour nous sauver. Je ne sais pas si un jour, moi je ne sais pas, mais si quand on sera au ciel, le Seigneur dira, voilà, regarde ce que j'ai fait pour toi, Emmanuel, tous les jours, pour essayer de t'appeler. Je sais qu'il a fait certaines choses, mais quand on va voir tout l'effort qu'il a mis pour qu'à un moment je craque et que j'accepte Christ dans ma vie, c'est quand même impressionnant. Mais bon. Et là, j'ai une petite histoire qui est rigolote, mais c'était pendant une période d'évangélisation, des jeunes avaient chacun un carton qui leur servait de badge et sur lequel il était écrit « Soyez en règle avec Dieu ». Dommage qu'on puisse plus faire ce genre d'évangélisation aujourd'hui, mais bon. Un énorme bulldog est venu de lui-même aux alentours des réunions et il devint ami. Un des jeunes chrétiens prit un carton et lui accrocha au collier du chien. Ces jeunes avaient un certain monsieur sur leur liste de prières, mais n'avaient pas pu le contacter. Quand le soir arriva, ce monsieur vint à la réunion. Et quand le pasteur demanda à ceux qui voulaient se donner à Dieu de s'avancer, ce monsieur fut parmi les premiers. Il fit une belle expérience de conversion. Quelqu'un plus tard s'approcha de lui et demanda ce qui s'était passé et pourquoi il était venu finalement à la rencontre. Et il va dire, Je ne me sentais pas bien aujourd'hui et après le travail, je décidais de rester à la maison pour me reposer. J'essayais de dormir cet après-midi-là quand j'ai sursauté à cause d'un violent et prolongé aboiement à l'arrière de la maison. Finalement, j'ai décidé de sortir et d'aller voir ce que c'était. Quand j'ai ouvert la porte de derrière, il y avait un bulldog, pas beau du tout, comme il dit, qui me regardait fixement. Vous savez, le regard des bulldogs. Et qui était étranger au voisinage, donc il ne connaissait pas. En premier, j'ai eu peur, mais il manifestait des signes amicaux. Alors je me suis assis sur ma chaise et très affectueusement, il est venu et il a posé sa tête entre mes genoux. C'est là que j'ai vu le carton fixé à son collier, « Soyez en règle avec Dieu ». Alors je me suis dit que c'était Dieu certainement qui s'intéressait à moi suffisamment pour qu'il m'envoie ce bulldog. Et moi, je suis allé à la réunion de prière et d'évangélisation et finalement, je me suis converti. Je pense que c'est une histoire vraie. Hein. Donc Dieu a sa manière de faire des fois. Et certainement que le jour où on saura comment il nous a amenés à lui, vous ferez de la même manière un grand sourire. C'est marrant comment Dieu peut agir pour nous sauver. C'est dire que Dieu veut que tout soit sauvé, c'est ce qu'il dit en Timothée. Dieu veut que tout soit sauvé. La condition sociale de ces 10 lépreux, alors il faut connaître un petit peu l'Ancien Testament surtout, hein, c'était des personnes qui étaient très isolées. Ils ne pouvaient pas s'approcher des autres et donc vivaient vraiment en marge. Et ce n'était pas vraiment très profitable pour eux. Les gens devaient se tenir à distance d'eux et ils étaient complètement loin de la communauté. Des fois ils étaient seuls, peut-être à plusieurs. L'Ancien Testament dit que la maladie était associée à l'impureté et il ne fallait absolument pas les toucher. Ils ne pouvaient non plus pas aller au temple, comme le faisaient les autres, pour aller adorer Dieu. Et ça devait être certainement une frustration pour eux que de ne pas pouvoir louer Dieu. Donc on peut imaginer leurs conditions, pas vraiment sympas. On sait que Jésus, au chapitre 5 de Luc, va guérir aussi un lépreux à un moment et il va le toucher. Il allait à l'encontre de la loi de Moïse, mais la grande différence entre lui et nous, c'est que lui, il était Dieu. Et c'est lui qui purifie, justement, du péché et aussi de la maladie. Et lui pouvait le faire, tout simplement. C'est intéressant dans le texte, les 10 lépreux, quand ils vont voir Jésus, ils vont l'appeler maître, hein, il crie maître. Alors c'était une expression qui était souvent employée à l'époque, parce que Jésus enseignait, il était comme un docteur de la loi, et on l'appelait pour cela maître. Mais des fois on a l'impression quand même que les gens, quand ils l'appellent maître, c'est plutôt une formule de politesse, on va dire, hein, puisque les 9 autres vont l'appeler maître, mais ils ne vont pas revenir faire de lui vraiment leur maître dans leur vie. Ça m'appelle un peu nous, chrétiens, parce qu'on dit souvent « Seigneur, Seigneur ». On sait dire « Seigneur », il n'y a aucun problème, mais est-ce qu'on fléchit vraiment le genou devant ce Seigneur? Parce qu'un Seigneur, c'est quelqu'un à qui on obéit au doigt et à l'œil, normalement. Heureusement que le Seigneur, il est plein de grâce. Mais si je dis à Jésus-Christ qu'il est mon Seigneur, je veux aussi le suivre et aussi marcher derrière ses pas. Sinon, c'est juste une formule de politesse, comme pour ces lépreux. Et donc, ces lépreux vont faire une requête qui est tout à fait légitime. Ils veulent être guéris. C'est tout à fait normal. Et ils crient à Jésus en disant qu'ils aient pitié d'eux. Hein. Ils veulent être guéris de cette lèpre. Le problème, c'est qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y avait très peu de cas de guérison de la lèpre. Donc, quelque part, il y avait une espèce de petite foi dans leur cœur. Et en même temps, ce qu'ils criaient là, ce n'est pas d'avoir seulement pitié, mais c'est de faire un miracle dans leur vie. Hein. Ils avaient foi en Christ, certainement. Alors, une foi, on ne sait pas d'où elle venait, mais... Jésus, hein, il était connu un peu dans la région, et certainement qu'ils ont entendu parler de lui d'une manière ou d'une autre. Jésus était réputé aussi pour ses miracles, et peut-être, justement, ils ont pensé que c'était l'occasion de demander à Jésus d'être soigné et guéri. Et là, c'est une espèce d'acte de foi, mais comme on va le voir après, c'est un acte de foi qui est plutôt intéressé. Il y a un intérêt, il y a un but derrière. Et parfois, nous-mêmes, on croit en Jésus-Christ avec un intérêt seulement. Mais après, ça ne va pas plus loin, forcément. Et beaucoup de gens se convertissent à un moment où font une simili-conversion parce qu'il y a un miracle, parce qu'ils ont été guéris. Et 3 ans, 4 ans après, quand les problèmes arrivent, il n'y a rien, il n'y a pas de racine. Et finalement, ils tombent à terre. Alors, ils croyaient être guéris parce qu'il y a eu un miracle ou parce qu'ils étaient guéris. Ils croyaient être sauvés à cause de ça. Et finalement, il n'y avait rien. Il y a, on va dire, la guérison physique, mais il y a la guérison du cœur. Et celle-là, elle est autre, complètement autre. Il vaut mieux passer par celle-là que par la guérison physique, des fois. Mais Jésus comprend leurs problèmes, et ça, j'aime beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme je vois aujourd'hui tous ces guérisseurs, tous ces gens, il ne va pas passer 2 heures à les ausculter, leur imposer les mains, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir quelqu'un, et il y a tellement de choses aujourd'hui. Lui, il est Dieu. Et il va le faire juste par la parole. Rien de plus. Vous avez déjà essayé de guérir quelqu'un en disant « Sois guéri ». Le gars, il vous regarde... Alors, il y en a qui vont essayer de pousser quand même, hein, avec leurs mains, etc., jusqu'à ce que vous soyez guéri, mais la parole de Dieu est efficace à 100%. Mais il est aussi Dieu, et nous ne sommes pas Jésus-Christ. Il ne faut pas l'oublier. Mais il s'intéresse à leurs problèmes, et surtout, la Bible nous dit qu'il connaissait ces problèmes bien avant qu'ils soient nés. Le Seigneur nous connaît de toute l'éternité. C'est génial. Dieu sait ce que vous allez faire demain. La route que vous allez prendre, le temps que vous allez faire pour prier, lire la Bible, râler après votre patron, etc., etc. Dieu sait absolument tout. Et il savait aussi comment les guérir à ce moment-là. Et des fois, on passe des heures et des heures à dire à Dieu comment il faut faire pour telle situation. Et on se bat contre Dieu bien souvent, un peu comme Josaphat, il aurait pu se battre avec ses moyens à lui, il a tout lâché. Ben, nous-mêmes, des fois, on doit se dire que, bon, on va tout laisser entre les mains de Dieu, et le Seigneur est assez efficace, je crois, pour faire ce qu'il veut, quand il veut, parce qu'il ne va pas forcément répondre à toutes nos requêtes, mais en tout cas, il est assez capable de faire, il sait tout et sait comment faire. Il le démontre avec nos 10 lépreux. Jésus connaît nos problèmes et il nous rencontre. Alors là, on parle peut-être du salut, mais je crois que c'est même au quotidien. Le Seigneur nous rencontre tous les jours, à condition évidemment qu'on le laisse nous rencontrer. Est-ce que je veux vraiment être rencontré par le Seigneur tous les jours? Est-ce que je veux d'abord le salut dans ma vie, parce que peut-être vous n'êtes pas tous sauvés, mais est-ce que je veux vraiment être aidé par le Seigneur, parce qu'il connaît tout? C'est formidable d'avoir un ami comme ça, non? Les vrais amis que l'on a, on peut compter sur eux jusqu'à une certaine limite. Mais après, quand il y a des situations difficiles et qui échappent à l'homme, avoir un tel ami, selon sa volonté aussi, parce qu'elle est bonne, eh bien, je peux compter sur lui. Et bien souvent, on se débrouille tout seul. On est bête, des fois, quand on y réfléchit. Je suis comme vous, il ne faut pas croire. J'ai aussi mes moments. Mais on peut compter sur le Seigneur. Deuxième chose qu'on voit, c'est cette foi par intérêt. En tout cas, je le vois comme cela. Jésus va guérir ses 10 lépreux, mais d'une manière étrange. Il va leur dire d'aller voir les sacrificateurs. Il honore leur foi, quelque part, et il leur demande d'aller voir ses sacrificateurs. Ça me rappelle Naaman, je ne sais pas si vous vous souvenez, le chef de l'armée du roi Syrie, et il va voir le prophète, et le prophète lui dit, va aller te plonger cette fois dans le Jourdain. C'est pas ça que j'ai demandé, moi je ne veux pas aller à la piscine, moi je veux être guéri. Et donc des fois, le Seigneur, Dieu, emploie des moyens absolument curieux pour nous guérir. L'homme, lui, cherche des choses extraordinaires, des miracles. Il faut que ça soit fantastique quand on va être guéri, avec, je sais pas, des feux d'artifice. Bon. Et il y a beaucoup de gourous aujourd'hui qui utilisent cela pour faire de l'argent, surtout pour eux. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Vous savez, le Seigneur fait toujours simple. Il a créé la terre comment? Il a commencé à prendre de la boue, de la pâte à modeler là ou quoi? Il a dit, c'est fait. Voilà. Le Seigneur fait simple, Dieu fait absolument simple. Et comme cette parole créatrice du monde... Ben, cette parole pouvait absolument tout faire pour guérir ces gens-là. Mais il fallait la croire. C'est ça, toute la nuance. Pourquoi il demande d'aller voir les sacrificateurs? Parce que c'est une question qu'on peut se poser. Les sacrificateurs ne sont pas capables de guérir personne. Par contre, ils étaient, dans l'Ancien Testament, mandatés pour déclarer quelqu'un comme étant pur. Le but de Jésus, c'est de les amener vers ces sacrificateurs pour qu'ils les déclarent tout simplement purs. Il faut savoir qu'il y a un contraste là entre la loi, et c'est ce que dit un peu Jésus, qui ne peut absolument rien faire, et ses sacrificateurs, les religieux, étaient complètement dans la loi, mais elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Mais Jésus, lui, a cette parole, et elle est capable de guérir à ce moment-là. Et là, il y a un grand contraste entre les religieux et ce que Jésus pouvait faire. Mais il voulait qu'ils aillent vers les sacrificateurs simplement pour qu'ils deviennent témoins du miracle. C'est tout ce qu'ils voulaient. D'abord, il y avait cet acte de foi pour les lépreux, mais en même temps, quand ces lépreux allaient se présenter devant les sacrificateurs, ben, les sacrificateurs pouvaient dire qu'une chose, vous êtes guéris, vous n'êtes plus lépreux. Et quelque part, ça devait leur parler aussi à eux. Ces lépreux étaient témoins de la puissance de Dieu à ce moment-là, et de la puissance de Jésus-Christ, qui finalement était Dieu, et finalement est aussi le Messie. Ce que, évidemment, refusaient les sacrificateurs à ce moment-là et les religieux. Ça aurait dû vraiment avoir un impact sur ces gens-là. Mais le religieux, il est toujours un peu terre à terre, et il continue sa vie sans remarquer ce que Dieu fait dans sa vie. C'est un moyen de les persuader, mais eux, on le sait très bien, plus tard, ils vont s'endurcir contre Jésus-Christ de plus en plus. La religion n'aime pas Dieu, ou Jésus-Christ en tout cas. C'est curieux. Il y a une espèce de paradoxe là-dedans. Mais les 10 lépreux vont les obéir à Jésus. Ils auraient aussi pu dire à un moment, on vient de demander de vouloir guérir, on ne demande pas d'aller voir les sacrificateurs, c'est pas ce qu'on peut Déjà, il ne fallait pas aller voir les gens, normalement. Mais ils vont être guéris. Ils avaient peut-être là suffisamment de foi. Je ne sais pas comment on pourrait... J'étais pas dans leur cœur, mais qu'est-ce qui les a motivés à aller vers ces sacrificateurs? Ils ont aussi accepté le procédé qui était pour moi un peu curieux, et certainement pour eux aussi un peu curieux. Mais au fond, peut-être, c'était leur désir d'être guéris. Et beaucoup de gens sont prêts à faire n'importe quoi pour être guéris. Et quand je dis n'importe quoi, c'est pas forcément aller vers Dieu. C'est aller vers même l'inverse, on va dire, pour être guéri. C'est légitime, quelque part. Mais des fois, le désir de guérir est plus grand que d'obéir à Dieu. Parce que Dieu permet des fois la maladie, et la permet même jusqu'à la fin de notre vie. Le Seigneur n'a jamais dit qu'il allait guérir tout le monde. L'apôtre Paul, par exemple, aurait bien voulu être débarrassé de ce qui l'embêtait, et il n'a jamais été débarrassé. Pourtant, il avait de la foi, je crois. Plus que nous, à mon avis. Donc voilà, mais il y a une motivation intérieure, difficile de savoir parce que la Bible n'en parle pas, donc on ne peut pas non plus exagérer, mais ils étaient prêts à suivre Christ à un moment, mais parce que ça les arrangeait bien. Je ne sais pas si, par exemple, ils n'étaient pas lépreux à ce moment-là et que Christ leur dit « Venez, suivez-moi », ils auraient dit « Oui, oui, on arrive ». Je pense qu'ils ont continué leur vie tout simplement, comme beaucoup de gens. Et beaucoup de gens veulent aller vers Christ simplement parce qu'il y a une motivation interne, quelque chose qui les arrange, un but. C'est pas de suivre Christ. C'est simplement pour soi, pour son ego ou pour sa santé, évidemment. Est-ce qu'on suit Dieu pour notre paix, notre sécurité, l'argent? Le monde en parle en ce moment parce que cet évangile de prospérité le dit. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Ou est-ce que je suis le Seigneur sur le chemin étroit, le chemin qu'il a préparé, en train d'en parler comme cela le vendredi soir? Parce que si je suis Christ juste pour avoir la paix, vous allez vite être déçu. Parce qu'il y aura des épreuves, il y aura des difficultés. La vie chrétienne n'est pas toujours simple, elle est quand même plus agréable que la vie d'un païen. Mais si je veux suivre Christ, ce n'est pas simplement pour avoir le bien-être. Regardez les disciples, les apôtres, quand ils ont suivi Christ, ils sont tous morts, condamnés à mort, etc. Ils ont souffert, prison, etc. Mais ils ont voulu suivre Christ. Ils n'étaient pas là par intérêt. Seulement, on nous dit l'épreuve était là pour cela, en tout cas, neuf. Mais Jésus va quand même les guérir. C'est là où Jésus, il est quand même formidable. Il connaît leur cœur, il savait très bien ce qu'ils allaient faire, mais il va quand même les guérir sur la base de leur obéissance, certainement, parce qu'ils sont allés se présenter au sacrificateur. Mais Dieu est bon quand même. Même quand on ne lui obéit pas, même quand il sait qu'on ne va pas lui obéir, Dieu, des fois, me bénit. Et on râle. Et on se plaint. Et le monde se plaint. Et le chrétien se plaint parce que « Ah, je souffre en tant que chrétien. » Non, Dieu est bon, même quand, des fois, on lui désobéit. Et Jésus va les guérir à distance. Il n'y a pas besoin d'être avec les mains sur les gens pour que ça arrive. Il pense, la chose se fait à des kilomètres tout loin. C'est Jésus et il démontre tout simplement sa puissance. Il démontre qu'il était tout simplement Dieu. Cherchons pas à être Jésus comme beaucoup de gens essaient de l'être aujourd'hui parce qu'ils veulent guérir les gens. Alors peut-être au départ c'est légitime, mais à la fin c'est pour l'ego ou pour l'argent peut-être. Si quelqu'un est malade, le Seigneur nous demande de prier pour lui. Nous on ne peut rien faire. Moi, je ne suis pas capable, je ne suis pas médecin en plus. Mais si Dieu veut le guérir, il le guérira, tout simplement, selon sa volonté. Et au moins, nous, on restera humbles et Dieu sera tout simplement glorifié. Le but de ce miracle, parce qu'il y avait un but, je pense, pour Jésus, si Jésus va les guérir, c'est pour que les lépreux et les sacrificateurs constatent à un moment qu'il est Dieu. Voilà, c'est ça qu'il voulait leur faire comprendre. Enfin, je pense, en tout cas. En même temps, d'être témoins de ce miracle, ils auraient dû, comme nous dit le texte, revenir vers le Seigneur, et là j'aurais dit même les dix lépreux plus les sacrificateurs, et venir voir Jésus et dire oh, nous sommes témoins d'un miracle, nous sommes témoins de ta puissance, nous sommes témoins que tu es Dieu et nous voulons te rendre gloire. C'est pas ce qui est arrivé, hélas. Jésus voulait aussi faire comprendre qu'il était divin, une partie divine de lui à ce moment-là, et en même temps, et surtout aux religieux, c'est moi le Messie. Mais les religieux, ils étaient dans leur trip, on va dire. Et ils ne voulaient pas reconnaître qu'il était le Messie. Et en plus, je pense que c'était une occasion, au moins pour les lépreux, d'être face au salut. Jésus m'a guéri. Donc il est Dieu. Donc ça veut dire que je suis pécheur. Donc ça veut dire que j'ai besoin de me repentir. Et il y en a un qui va le faire, qui va comprendre certaines choses. Ils étaient face au salut, ces gens-là. Mais ce qui est formidable, c'est que le Seigneur, avec quelques personnes, va atteindre d'autres personnes aussi. Des fois, on se dit, on témoigne et on a l'impression que ça ne sert à rien. Ben non. Le Seigneur a utilisé ses lépreux à un moment, dans une situation, pour toucher aussi les sacrificateurs. Il y avait certainement des gens autour aussi, pour que Dieu soit glorifié, mais aussi pour que les gens se posent une question. Où est-ce que j'en suis avec Jésus-Christ dans ma vie ? Le Seigneur n'agit pas avec notre logique humaine, heureusement. Parce que des fois, on est très, très féru de lui donner des conseils, comment il faut faire dans mon épreuve. Voilà, je te propose qu'on agisse comme cela. Le Seigneur n'agit pas du tout comme cela. Lui, il sait tout. Et donc, il peut agir comme il a envie. Il agit avec sa sagesse divine. Ce n'est pas toujours simple de l'accepter dans notre vie, de tout lâcher. Parce qu'on disait tout à l'heure, déposer le fardeau, on est prêt à le poser, mais après, on va le tirer avec nous. Parce qu'on sait comment faire. Souvent, c'est le cas. Mais vraiment, lâcher le fardeau et partir en se disant, Dieu va le régler, c'est un sacré acte de foi. On peut le faire. Ce n'est pas impossible, puisque le Seigneur nous le demande. Mais ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours simple. Une troisième chose qu'on voit, Guy appelé un sauvé. Je rappelle un peu ce monde aujourd'hui, quelque part. Un seul aura de la gratitude et va prendre le temps de revenir sur ses pas et de proclamer toute la gloire à Dieu à ce moment-là. Alors les neuf autres avaient certainement eu la foi, mais moi je dirais la foi dans un Jésus supermarché, parce que souvent c'est comme cela. Je viens vers Jésus parce que je peux prendre ça, 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 et je passe à la caisse et puis c'est réglé. Et après, j'ai plus besoin de lui puisque j'ai eu ce que je voulais. Mais là, on n'est pas sauvé dans ce cas-là. Ça me rappelle la parabole des quatre terrains. Il y a quatre personnes qui sont appelées, mais il y en a trois qui ne sont pas sauvées là-dedans. Ils avaient l'impression d'être sauvés, peut-être religieux, ou ils avaient cru qu'ils étaient nés de nouveau, mais c'est le temps qui nous dit si on est né de nouveau ou pas. Tous avaient eu de la foi, mais un seul va revenir glorifier Dieu, le remercier pour le miracle. Et je pense qu'au fond, il reconnaissait aussi que Jésus était Dieu à ce moment-là. Il glorifie, et le texte nous dit, Jésus à haute voix. Intéressant qu'ils aient laissé le détail. Je crois qu'il voulait être entendu. Il voulait que les gens sachent qu'il était témoin d'un miracle, qu'il était témoin que Jésus-Christ était Dieu. Il voulait partager la bonne nouvelle. Est-ce que nous aimons proclamer cette bonne nouvelle ? Il y a des situations, il y a des endroits pour le faire, on est bien d'accord. Mais quand... Avec mes collègues de travail, d'un coup, quelqu'un se moque de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à dire « je suis pas d'accord » Il y avait, ça me rappelle, quand on était à l'enterrement du père de Bruno, et il y avait le gars qui faisait la cérémonie, et puis à la fin de la cérémonie, les gens sortaient, et puis d'un coup, ils étaient en train d'installer une croix, et ils disaient « une blague mauvaise sur Jésus ». Mais il l'a dit à côté de moi, mais il ne savait pas que j'étais pasteur. J'ai dit « quoi ?» Il dit « pardon ». Je ne suis pas d'accord de ce que vous êtes en train de dire là. Vous êtes en train d'humilier Jésus-Christ et je ne suis pas d'accord avec ça. Il m'a regardé comme ça. Il a été surpris et puis on a parlé. Je lui ai présenté la grâce en 5 minutes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en a fait. Mais des fois, Dieu nous permet des occasions comme cela pour pouvoir annoncer l'évangile. J'espère qu'il va réfléchir. Il sait où je suis, donc il sait où il faut venir au cas où. Mais comme ce lépreux, il a annoncé à haute voix la gloire de Dieu. Il a partagé là, d'une certaine manière, la bonne nouvelle, et on ne doit pas se taire. Et il est dit qu'il adore Jésus, puisqu'il va tomber face à Jésus, à ses pieds, et c'est la posture tout simplement pour adorer. Je ne sais pas si les chrétiens prennent encore le temps, des fois, de s'agenouiller pour prier. Ce n'est pas imposé. Mais il y a quand même un geste, je trouve, là, de s'humilier devant Dieu. Je me rappelle, quand j'étais jeune converti, mon pasteur à Arles nous prenait tout le temps dans le bureau, et on se mettait à genoux et on priait. Au départ, je lui dis, bizarre celui-là, mais j'ai compris après l'idée. On s'humilie vraiment devant le Seigneur. Ça fait mal un peu aux genoux des fois, mais c'est bon pour le cœur, quelque part. C'est pas imposé, c'est pas ça l'idée. Mais déjà, quand je me mets devant le Seigneur, je devrais, dans mon cœur, m'agenouiller. Et souvent, on vient auprès du Seigneur, « j'ai besoin, amen !» Hop, c'est réglé. Supermarché, carte bleue, voilà. Lui, il s'est agenouillé devant celui qu'il reconnaissait être Dieu. Et nous prions souvent, peut-être devant lui, sans reconnaître qui il est. Oh, on sait qu'il est Dieu, on sait qu'il peut. Mais Dieu est honoré quand on sait devant qui on se tient. Et pour lui, la vie va complètement changer, certainement. Et c'est la gratitude légitime de celui qui est sauvé. Vous êtes sauvé ? Oui, j'espère, pour tous en tout cas. Vous êtes heureux d'être sauvé ? Oui, vous l'êtes là dimanche matin. Mais si je vous téléphone un mercredi en plein boulot, en plein rush, là, vous êtes content d'être sauvé ? Oui, j'ai pas le temps, là, je pense à autre chose. Bon, évidemment, on peut pas faire tout en même temps. Mais la joie d'être sauvé, elle devrait être là tous les jours. Tous les jours. Hein. Il ne s'agit pas non plus d'être légaliste, on s'entend bien, mais il se passe quelque chose dans la vie de quelqu'un qui a été sauvé. Ce n'est pas possible autrement. Il y a de la joie dans son cœur et il y a de la gratitude vis-à-vis de Dieu. Et le Seigneur va faire remarquer une chose, c'est que c'était un étranger. Il y en a 10, il n'y a qu'un étranger, un Samaritain qui va venir. Hein. Un Samaritain n'était pas aimé par les Juifs à ce moment-là. Et il va, lui, le Samaritain, ça me rappelle la parabole du bon Samaritain aussi, lui, qui n'était pas forcément religieux, mais va reconnaître la bonté de Dieu. Hein. Alors le texte ne dit pas forcément que les 9 autres étaient juifs, mais on imagine par contraste qu'ils l'étaient. Mais là, le Seigneur va montrer que celui qui ne le connaît pas, qui était étranger quelque part, enfin il connaissait à moitié, on va dire, il mélangeait un peu les deux, mais lui va le reconnaître comme Dieu, comme Messie peut-être, alors que son peuple juif, lui, ne voulait pas le reconnaître. Quelle tristesse, je pense, pour le Seigneur à ce moment-là. Hein. Et justement, la question qu'il va posée, elle est triste à mourir. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et 9 autres, où sont-ils? Je ne sais pas si ça résonne dans votre cœur. Hein. Où ils sont les autres? Je viens de les guérir. Ils m'ont demandé quelque chose. J'ai agi en leur faveur, mais ils sont où aujourd'hui? C'est bien triste. Hein. Vous savez, le Seigneur attend une réaction de l'homme quand il l'appelle. Il l'appelle d'une manière ou d'une autre. En entendant la parole de Dieu, peut-être sur Internet par un message, par votre témoignage, par une situation difficile, mais il attend la réaction de celui qu'il appelle. Je crois qu'il doit être souvent triste. En tout cas, moi, j'ai dû l'attrister plus d'une fois avant que je veuille bien accepter de répondre à son appel. Mais tous les jours, le Seigneur appelle d'une manière ou d'une autre les hommes à être sauvés. Il veut que les hommes soient sauvés. Il n'a pas dit qu'il voudrait leur proposer le choix d'être sauvés. Il veut qu'ils soient sauvés parce qu'il sait qu'ils iront en enfer s'ils ne sont pas sauvés. Et c'est pour ça que Dieu fait tout aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, pour que les gens soient sauvés. Il doit être bien triste des fois. Les 9 ont voulu une partie de Jésus. Ils ont voulu les soins du corps. C'est légitime quelque part. Mais en Christ, ils ont juste cherché les soins du corps. Mais pas ceux de l'âme. C'est ça le problème. Et bien souvent, beaucoup de gens cherchent tout simplement les soins du corps, les soins de l'argent, les soins d'un tas de choses, mais pas forcément de soigner son âme. Et la Bible nous dit qu'on est pécheurs, hein, que le cœur est tortueux par-dessus tout, qu'on ne peut même pas se connaître nous-mêmes et que ce péché nous condamne devant Dieu. Et c'est ça la première chose qu'il faut guérir, notre péché. Et ce qui est encore plus formidable, c'est que le Seigneur nous a donné un moyen, puisqu'il est allé à la croix, pour nous pardonner nos péchés. Et bien souvent, l'homme regarde simplement son corps et ne regarde pas à l'âme. Alors que la solution, elle est juste là, à côté. Dans l'enfer, il y a plein de gens qui disent « Je me souviens, quelqu'un m'avait parlé du salut. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Si on vous en parle aujourd'hui et que vous n'êtes pas sauvé, n'attendez pas demain, c'est maintenant qu'il faut réagir. Demain, vous pouvez être mort. » Je suis désolé de le dire. Je ne vous le souhaite pas, évidemment, je veux vous revoir. Mais c'est important d'y penser parce que Jésus attend une réaction aujourd'hui de chacun d'entre nous. Que ce soit forcément pas pour le salut, mais si vous ne l'êtes pas, c'est peut-être le moment d'y réfléchir. Et ne profitons pas de Jésus simplement pour les bons soins qu'il nous donne. Ce n'est pas ça qu'il veut. Il le fait parce qu'il nous aime. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes, hein, nous dit la Bible. Il aime, il se plaît à nous donner des choses. Mais surtout son but, c'est de nous sauver. Et là, c'est lépreux avait une foi par intérêt. Et c'est intéressant parce que le Seigneur, là aussi, quelque part, nous évalue, hein, notre attitude, notre façon d'être. J'ai parlé du tribunal de Christ la semaine dernière. On va être évalué sur la manière dont on a vécu. Mais là, le Seigneur évalue. Il a fait quelque chose et il le fait des fois pour nous aussi. Et après, il attend. Il évalue notre façon de nous comporter, d'agir, de faire, de remercier, etc. Il voit souvent nos manquements. Mais le Seigneur nous évalue tous les jours d'une certaine manière. Il attend quelque chose de nous. Il attend quelque chose de nous. Et ne pas le glorifier, ben, c'est tout simplement refuser Jésus comme Dieu. Les 9 autres sont partis, ils ont été guéris, mais ils n'ont pas reconnu Jésus comme étant Dieu. Ils ne l'ont pas glorifié. Ils étaient contents, ils étaient guéris, mais ils n'étaient pas sauvés. Ils n'ont pas tout compris. J'espère, parce que la Bible ne nous dit rien, peut-être que plus tard ils vont y réfléchir, et on espère qu'on les retrouvera, mais à ce moment-là, ils n'étaient pas sauvés. Et là, justement, comme j'ai marqué, hein, Jésus révèle le péché d'ingratitude. On connaît tous les péchés, hein, on est capable d'en sortir une tonne, voler, tuer, mentir, etc. Mais l'ingratitude, c'est aussi un péché. Ce n'est pas valable que pour les lépreux. Hein. Les hommes sont bien souvent ingrats. Les chrétiens sont souvent ingrats. Je suis des fois ingrat vis-à-vis de Christ. On veut tout de Dieu, mais on ne veut pas lui dire merci. Ou alors c'est un petit merci furtif. Merci. Hop, et on retourne à notre vie. Le Seigneur veut que l'on s'arrête, qu'on fasse une pause dans notre vie quand il fait quelque chose, ou pas. C'est bien aussi de le faire. Parce que quand on dit qu'il n'a rien fait, il a quand même fait beaucoup de choses, mais on ne l'a pas vu. Mais il veut qu'on fasse une pause de temps en temps pour lui dire merci. C'est compliqué de dire merci ? Si. Alors pas là ce matin, mais quand je vais dire merci sincèrement à Dieu, ça veut dire que je vais prendre le temps de voir ce qu'il a fait pour moi. C'est ça le problème. Et on n'a pas le temps, vous savez, je travaille. J'ai les enfants, j'ai la famille, je dois regarder la télé, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas prendre du temps pour dire merci à Dieu. Je n'ai pas le temps. Vous avez eu le temps ? On n'a pas le temps, hein ? Eh oui, on n'a pas le temps. Et puis un jour, on sort au ciel et on dit, mais si tu avais du temps ? Si on regarde notre journée, il y a des choses qu'on peut peut-être se débarrasser pour prendre au moins 10 minutes pour dire merci au Seigneur pour la belle journée qu'il m'a donnée et ne pas vivre en tant que chrétien ingrat. Je trouvais un petit texte par rapport au péché d'ingratitude. Quelqu'un disait, c'est avec tristesse que Jésus constate qu'un seul des 10 lépreux revient sur ses pas pour dire merci. Combien les hommes sont ingrats. L'ingratitude est une forme de l'impiété qui déchaîne la colère de Dieu. Alors il ne le fait pas tout le temps, il est patient, mais quand même. Ne pas dire merci devant un bienfait de Dieu est un péché aussi grave que l'adultère ou la haine. Aussi, rappelons-nous l'exhortation de l'apôtre Paul en Éphésiens 5, 20. Hein, Jésus qui avait guéri la lèpre de cet Israélite guérit maintenant son âme. Ta foi t'a sauvé. Plus nous dirons à Dieu notre reconnaissance et plus il nous donnera. Le texte nous dit d'abonder en action de grâce. Nous abondons en pleurs, en larmoiements, en désespoir, bien souvent, ça on est des professionnels, mais en action de grâce. Combien de fois vous avez dit, je ne veux pas savoir, mais combien de fois vous avez dit merci au Seigneur durant cette semaine ? Je me pose la question à moi aussi, je ne suis pas bien vous. Pas beaucoup des fois. Par contre, oh là là, le supermarché, il était là. Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai un problème là, j'ai un problème ci et ça et ça. Heureusement que Dieu est patient avec nous, mais ce qu'il veut, c'est qu'on soit reconnaissant de tous les soins que Il nous offre chaque jour. Et vous savez, quelqu'un qui est reconnaissant tous les jours, c'est quelqu'un qui est heureux. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent leur vie de façon maussade. C'est triste. On demande même pourquoi ils sont chrétiens. Parce que, oh, ça ne va pas dans ma vie, je souffre, oh, encore une épreuve. Ah, les autres chrétiens, ils n'ont jamais ces épreuves. Moi, je les ai toujours, et puis on se compare, et puis etc. Et 20 ans après, on est toujours dans ce même truc. Alors que le Seigneur, il veut nous donner sa paix, enfin, la vraie paix. Il veut nous donner la tranquillité dans notre vie, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des difficultés. C'est quand même triste qu'on accepte le salut, mais qu'on n'accepte pas la suite de ce salut, qui est là pour nous restaurer, nous transformer et nous apporter une vraie paix en Jésus-Christ. Et on va se priver de beaucoup de choses. C'est bien triste. Quand on fera le bilan à la fin, on va dire, mince, j'ai loupé pas mal de choses dans ma vie. Mais être reconnaissant, et je crois que c'est aussi le moteur de la vie chrétienne, si un chrétien lâche un peu prise de temps en temps, c'est justement parce qu'il n'est pas reconnaissant. Il préfère s'appuyer sur ses râles, sur la tristesse qui est dans son cœur, et forcément ça ne motive pas à aller vers le Seigneur. Mais si je suis vraiment reconnaissant, même pour des petites choses, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être guéri, vous avez un toit. C'est banal en France. C'est tellement banal. En Syrie, là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Vous aimeriez être à leur place ? Qu'est-ce que vous diriez là ? On a à manger. On va manger tout à l'heure, j'espère, ou sauf si vous voulez jeûner. Mais on a un tas de choses et on n'est plus reconnaissant du tout parce que c'est tellement banal pour nous. Par contre, quand il va falloir être guéri, alors là, formidable, là, on va appeler Christ. Là, on doit être reconnaissant en toutes choses. Et pour ce lépreux qui revient, c'est plus qu'une guérison pour lui. C'est le salut qui lui est offert à ce moment-là. Il est guéri physiquement, mais là, il y a beaucoup plus qui va se passer. Les autres, ils ont loupé le coche. On leur a offert la possibilité d'être sauvés. Bon, ils ont préféré vivre leur vie, mais Dieu emploie parfois le miracle quand il appelle au salut. Je dis parfois, ce n'est pas systématique. Le miracle est un moyen employé par Dieu pour nous appeler au salut, un moyen parmi tant d'autres. Et je fais exprès de le noyer dans les moyens que Dieu emploie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des miracles avant d'être convertis. Non, il n'y a pas besoin de miracle. La conversion est le miracle, pour moi. Mais le miracle ne sauve pas. Et c'est ce que dit le texte, justement. Et toutes ces foules qui s'approchent aujourd'hui devant les hommes là, qui guérissent, etc., ou peut-être même devant Dieu sincèrement, ils cherchent le miracle, mais ça ne sauve pas. Ils vont être peut-être guéris, mais ils ne seront pas sauvés. Il fait prendre conscience, ce miracle, de la puissance de Dieu et de la faiblesse de l'homme. C'est ça qu'il faut comprendre après. Je suis tellement faible, mais Dieu est puissant. Et une fois placé devant la puissance de Dieu, on devrait en découvrir toute sa sainteté. Et si j'en découvre toute sa sainteté, ça va faire un gros boom dans mon cœur, parce que je me rends compte que je suis pécheur, terriblement pécheur, en contraste avec cette sainteté. Et si je suis pécheur, je me rends compte que je suis perdu. Et si je suis perdu, je me rends compte que ben, y a rien pour me sauver pour l'instant, sauf Jésus-Christ et sa grâce. Et donc, il me dit, ok, je t'offre la grâce, mais il va falloir que je me repente aussi de mes péchés et que je demande pardon pour mes péchés. Et enfin, la grâce de Jésus-Christ entrera dans la vie de cette personne. Le vrai miracle, comme j'ai dit, n'est pas la guérison du corps, mais c'est celle de l'âme. Et donc, beaucoup de gens sont guéris, mais ne sont pas forcément sauvés. Mais nous devons plutôt soigner notre âme, chercher à la guérir de notre péché. Et la solution est donnée aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, tout simplement. Mais il faut que je me rende compte que je suis pécheur, condamné, que je me repente de mes péchés et que j'accepte tout simplement Jésus-Christ qui a pris ma place sur cette croix où moi je devais y être. Et là, une fois que je suis guéri dans mon cœur de mon péché, je peux être encore malade. Ce n'est pas le problème. Bon, ce n'est pas agréable d'être malade, je le sais. Mais tout change dans la vie. Et même ma relation avec la maladie va complètement changer. Sauf si Christ vous a guéri, et là on lui dira encore doublement, amen dans ce cas-là. La Bible nous dit, il y a beaucoup d'appelés et beaucoup d'élus. Je dis, non, c'est pas ça, qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. On le connaît, mais quand on s'arrête un petit peu et qu'on regarde le monde, aller dans un supermarché comme je fais des fois, hier je regardais tout ce monde, il y a beaucoup d'appelés, et il y aura 2-3 appelés qui vont être élus là-dedans. Et tout le reste va aller en enfer. Ça fait mal quand on y réfléchit. C'est terrible. Ça sera à cause d'eux, à cause de leur choix, à cause de leur réponse à l'appel au salut, mais beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et comme on le voit là, un dixième, on pourrait dire, alors, pas prendre ça comme un critère, on va dire, mais il y a un seul sauvé sur les 10. C'est pas grand-chose. Et pourtant, ils avaient tous l'occasion d'être sauvés. Les autres ont préféré simplement être guéris physiquement parce qu'ils pensaient que c'était plus important. Le Seigneur voulait aussi guérir leur âme. Et il y a un seul qui a de la gratitude, et c'est ce qui lui a permis d'être guéri physiquement et spirituellement. Nous puissions être des chrétiens qui sommes reconnaissants. On n'a pas été forcément guéri ou il n'y a pas eu un miracle dans notre vie, bien que je crois que quand Dieu nous appelle et nous permet d'accepter sa grâce, c'est un grand miracle. Et la Bible nous dit que les anges sont heureux dans le ciel à cause de cela. Souvenez quand vous êtes convertis dans le ciel, c'était la fête. Hein. On ne le savait pas à ce moment-là, mais c'était la fiesta là, à cause de vous hein, et à cause de moi. Mais maintenant que je suis un chrétien, un né de nouveau, sauvé, est-ce que je suis vraiment reconnaissant? Est-ce que j'ai vraiment de la gratitude pour cette vie, tout simplement, nouvelle, que le Seigneur me donne? Pas pour ce qu'il me donne, on va dire, tous les bienfaits, les bénédictions et les épreuves. Je suis sûr que vous dites toujours merci pour vos épreuves, parce que votre foi va se développer, non? Il n'y a personne ici? Bizarre, hein? Pourtant, on devrait dire merci aussi dans ce sens-là. Mais on veut dire simplement merci au Seigneur d'être sauvé. C'est ça, le premier acte, on va dire, de gratitude. Et quand on le fait, ben, ça change tout simplement la vie. Quand vous vivez reconnaissant, vous devenez les chrétiens que le Seigneur veut avoir dans son Église. Pour terminer, je vous pose la question, mais vous répondrez dans votre cœur, pourquoi vous suivez Jésus-Christ? Pourquoi? Est-ce que c'est par intérêt, pour la paix, la sécurité, je ne sais pas quelle autre motivation, vous le savez, vous, dans votre cœur, ou peut-être pas, posez la question au Seigneur. Hein. Ou est-ce que je suis Jésus-Christ parce qu'il est mon Dieu et parce qu'il est mon Sauveur? Et je crois que c'est la meilleure des motivations pour le suivre. Hein. Alors on dit tous, oui, c'est mon Dieu, c'est mon Sauveur. Vous me diriez oui tous là. Mais au fond de notre cœur, quand on fait le bilan des fois, c'est bien souvent aussi par intérêt. On est comme ça, on est des êtres humains. Mais le Seigneur veut qu'on le suive pour rien, qu'il ne nous donne rien en face. Job, il n'a rien eu, il n'a eu que des problèmes à un moment. Il a quand même suivi le Seigneur. Et c'est là où on va voir si on suit le Seigneur par intérêt ou pas. Si je le suis pour rien ou simplement parce qu'il est Dieu et parce que je veux le glorifier, c'est ce que dit la Bible. On a été créé pour glorifier Dieu, pas plus, pas moins, tout simplement. C'est nos épreuves qui vont démontrer qui nous suivons vraiment. Si nous les acceptons, c'est que nous suivons vraiment Dieu. Si nous refusons les épreuves, ça ne veut pas dire forcément que vous n'êtes pas chrétien, mais ça montre que quelque part, vous ne suivez pas Christ totalement, hein, et qu'il y a un problème là, et il faut le régler. Alors évidemment, les épreuves, ce n'est pas agréable, ça nous fait pleurer, c'est triste des fois, mais ce n'est pas parce qu'on est dans cet état qu'on ne veut pas suivre le Seigneur, malgré tout et accepter le chemin étroit. Et il va nous en sortir, tout simplement. On voit aussi là dans ce texte que le Seigneur voit nos attitudes et nous évalue d'une certaine manière. Et c'est exactement ce qu'il y a dans mon cœur en ce moment vis-à-vis de lui. On pourrait essayer de le cacher, pour essayer de mentir même peut-être. Non, il sait exactement ce qu'il y a dans mon cœur ce matin. Mes motivations, alors, ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est qu'il ne fait pas juste une évaluation, il donne la possibilité de faire mieux. Et on a encore un peu de temps, donc c'est formidable, non? Donc si je m'évalue aujourd'hui à être un chrétien qui le suit simplement par intérêt, je peux tout simplement tout à l'heure lui demander pardon et vouloir le suivre pour qui il est, tout simplement. Et là, vous allez voir que de jour en jour, les choses vont changer dans votre vie. Vous allez être de plus en plus heureux. Et vous allez venir le dimanche, un peu plus motivé peut-être, aux réunions de l'étude biblique, etc., plus motivé, avec de la joie, de lire la parole de Dieu, de prier. Ça change complètement la vie. Et en même temps, comme ce lépreux, parce qu'il est devenu un sacré évangéliste, entre guillemets, mais devenons nous-mêmes des témoins de la grâce. On n'a pas été forcément guéri, mais vous avez été sauvés. Et à cause de cela, la Bible nous dit que nous sommes ambassadeurs de la justification, ambassadeurs de la grâce qui est accordée encore aujourd'hui. Et soyons pleins de gratitude comme ce lépreux chaque jour. Soyez heureux, tout simplement, comme ce lépreux. On va prier. Seigneur, merci pour cet épisode de vie de certains hommes, ces 10 lépreux qui ont pu te rencontrer un jour, ou je dirais plutôt c'est toi qui les as rencontrés, et qui étaient face à la grâce, tout simplement, et 9 l'ont rejeté, et 1 l'a accepté, et c'est le triste bilan que l'on peut faire dans ce monde aussi, de voir ces gens approchés par toi, mais te refuser. Merci pour ce lépreux qui a été plein de gratitude, qui a voulu te glorifier devant tout le monde. Et quelle leçon pour nous aujourd'hui ? Nous n'avons pas été l'objet forcément d'un miracle, mais au moins celui de la grâce, d'être sauvé, de ne pas passer l'éternité en enfer, mais d'être dans ta présence. Et quelle joie, Seigneur, quelle espérance aussi pour chacun d'entre nous. Et que cela puisse bouillir dans notre cœur, comme la première fois que l'on l'avait compris. Et bouillir chaque jour pour que nous devenions pleins de gratitude, de reconnaissance vis-à-vis de la grâce, mais aussi vis-à-vis de tout ce que tu nous donnes chaque jour, tous les bienfaits et bénédictions que tu nous accordes et qui nous semblent si banales. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Et je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui, que tu frappes à la porte de leur cœur par ton Saint-Esprit et qu'ils puissent t'accepter pas que par intérêt, mais aussi par grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.